Bienvenue à la série « Le monde change », une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. L'entrepreneuriat au féminin prend plusieurs formes. Seulement 16% des PME comptant au moins un employé étaient détenus majoritairement par des femmes en 2017, un chiffre qui augmente à 37% si on inclut les sociétés détenues moitié-moitié par une femme et un homme, souvent un couple. C'est en train de se transformer, ça devient plus égalitaire, mais les entreprises ne sont pas toutes prêtes à ça. On apprend avec plus d'exactitude que les femmes font les affaires autrement. Une étude menée aux États-Unis note que celle-ci traçait moins fermement la ligne entre la vie privée et la vie professionnelle, par choix ou parce qu'elles sont sollicitées. Suivez-moi, on s'en va rejoindre à Fatima Zoé Monnier qui nous offre son témoignage d'un vécu souvent dans l'ombre, mais néanmoins déterminant pour le succès des projets entrepreneuriaux réalisés avec son conjoint.
Moi, je suis la fille de Chlorine Bénard et Procule Monnier. Je suis la deuxième d'une famille de 13 enfants. Et on restait sur les caps ouest, partie de Fatima. Fatima finit vraiment là, au chemin des Arsènes. Mes parents ont construit une maison juste sur le bord de la route de 199. Puis c'est entre le chemin de la Balance puis le casse-croûte Charmant. Là.
Puis là, vous étiez plusieurs.
Oh mon Dieu, 13 enfants. Plus de gars que de filles. Moi, j'étais la deuxième. On a été initiés jeunes à avoir des grandes responsabilités. On a commencé à travailler jeunes aussi. Moi, je suis partie à l'âge de 15 ans. J'ai été travailler au Cap-la-Madeleine. Ça payait mes études. J'ai étudié à Deschambault, le classique, là. Puis j'ai fait juste une 11e année. Je suis revenue vivre aux îles après. Vu que j'étudiais chez les Oblates de Marie-Immaculée, qui avait ici parti l'école Stella Maris. Ben, j'ai été étudier là. Vu que j'avais travaillé l'été, mes études étaient payées. Ils ne nous chargeaient pas pour ça. On restait dans une grande maison à Deschambault. On était plusieurs filles là, qui étudiaient là.
Et vos parents étaient d'accord pour que vous partiez aux études?
Ben, ils étaient d'accord, oui, parce que moi, j'insistais. Là. Je voulais aller un petit peu plus loin. Je suis revenue. Après, j'ai parti pour Montréal à 19 ans. Et quand je suis revenue aux îles, j'étais mariée. J'ai resté dans le bout de Verdun. Puis Ville-la-Salle. Il y avait beaucoup de Madelino. Puis là, c'est là qu'on s'est rencontrés, Paul et moi, chez une famille des îles. Papa m'avait permis ça à condition que je reste dans une famille des îles. Et j'ai été vraiment gâtée là. Ils vivent ici aux îles, Émilienne Poirier et Robert Vignon. Je suis chanceuse parce que je les rencontre encore souvent à la messe. Puis c'est des gens qui ont été vraiment très, très bons pour moi.
Paul Duclos, votre mari, il étudiait à ce moment-là à Montréal?
Oui, lui, il travaillait, mais en même temps, il étudiait, il prenait des cours du soir en électronique. Quand il travaillait, c'était pour le métro. Le métro de Montréal commençait là, à cette époque-là. Puis c'est lui qui a fait les derniers tests sur les moteurs du métro de Montréal. Puis là, c'est là qu'on s'est rencontrés, Paul et moi. Puis en 64, on s'est mariés. Après ça, mais quand on est revenu aux îles, là, en 67, la journée de l'expo. On a été voir l'expo, puis après ça, on s'emmenait aux îles. Là, c'était pas de gaieté de cœur. Sonia était née. Sonia avait 2 ans, premier enfant. Puis, on a parti au mois de mai, à l'ouverture de l'expo, pour se revenir aux îles. Notre maison n'était pas construite, là. On restait chez la belle-mère. Puis, il y avait Antoine qui était marié avec Adrienne Mancé. C'était le frère à Paul. Fait qu'on restait dans la même maison, là. En 68, 69, on habitait à la maison ici. Puis là, ma belle-mère a déménagé ici. Elle n'avait pas de travail, puis elle a commencé tranquillement à réparer. Il y avait un petit magasin ici, ce que c'est que la maison, que ses parents avaient. Puis là, il a ouvert ça, puis il a commencé à faire des réparations de télévision. Moi, des fois, j'y aidais. On a commencé ça tranquillement comme ça. Voir est-ce que c'est que le travail qu'il faisait, mais il fallait qu'il y aille livrer. Puis moi, je faisais les factures. Puis j'ai commencé comme ça. Après ça, en hiver, je pense qu'il a emmené ça dans le salon chez ma belle-mère avant qu'on soit ici. Mais quand on a déménagé ici, il a fait son atelier en bas, au sous-sol. Ça a commencé là. Et moi, j'ai toujours aimé les chiffres. Fait que quand j'ai arrivé aux îles, je me suis inscrite. Quand Jean-Marc Corbeil est arrivé aux îles, il donnait des cours à l'école polyvalente. C'était des cours du soir, fait que j'ai pu faire le jour et le soir, j'allais à mes cours, des cours de tenue de livre et de comptabilité. À partir de là, quand on a construit en face, en 70, bien là, c'était mieux, mais c'était en face de la maison, il y avait juste la rue à traverser.
Un magasin de réparation des
pianos. De réparation, mais on vendait aussi, on vendait des pianos, on vendait des télévisions, des réparations de télévision. C'était l'électronique, plus la vente qu'on faisait. Et le soir, moi, on avait des machines distributrices à l'école polyvalente, à l'hôpital, à l'aéroport. Fait que c'est moi qui faisais les sandwichs et les desserts, ici et ça. Puis on avait un employé qui allait tout remplir les machines, puis qui s'assurait que ça marche bien sur l'heure des repas à l'école.
C'est vous qui faisiez les sandwichs?
Ah oui, 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 les desserts et tout, là. Ben oui, puis je faisais ça le soir après que les enfants étaient couchés, là, ici. Et c'était de même dans ce temps-là. Puis après ça, c'était des 26 cents et c'est ça, il fallait tout compter ça sur le bout de la table, rouler ça, aller porter ça à la caisse. Puis ces machines-là, ça coûtait cher, il fallait les payer. Ben moi, je voyais ça, par exemple. Paul, il pouvait aller faire des emprunts, mais moi, je voyais ce que ça soit respecté quand c'était le temps.
Vous m'avez dit tantôt, les emprunts, vous aimiez pas ça.
Oh non, pas du tout. Moi, ça j'avais horreur. C'était comme aller demander la charité, ma foi. Mais Paul ne voyait pas ça de même, heureusement, parce qu'on n'aurait pas été loin. On s'est complété dans le travail qu'on a accompli.
On peut dire que votre mari, c'était le rêveur,
ouais,
le visionnaire.
C'est vraiment
vous,
ça.
Vous arriviez puis vous y mettiez les deux pieds à terre?
Ah oui, c'est vraiment ça. Oui, madame. Quelques exemples. Il est arrivé un monsieur ici qui voulait, quand on a parti le cadre, okay, un monsieur de l'extérieur qui était dans le domaine puis qui aurait voulu qu'on y vende des parts. Ben, c'est quand il a parti ça, là. En 1980, ça fait que moi, je l'ai écouté parler, là. Quand il a été parti, j'ai dit à Paul, il n'y en a pas question. C'est clair. Tu t'embarques tout seul, puis tu négocies tes affaires. C'était comme ça. Je le stoppais pas. Il arrivait à ses fins pareil. Je le stoppais pas. Mais j'y mettais carte sur table, là, que telle affaire, comme moi, que ça me faisait peur. Moi, je le voyais partir d'ici. Là. Il partait avec une télévision à batterie sur l'épaule, puis une grande antenne. Il mettait sur les télévisions pour aller chercher le signal, là. Puis il montait la butte, là. Puis il allait faire des tests avec sa télévision en batterie. Si je le voyais agir. C'est pas un homme qui parle, hein, mais tu sens qu'il est en train de travailler sur son bon travail. C'est sûr que moi, ça me faisait des peurs parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On a emprunté cette année-là, sais-tu à comment? 22 % d'intérêt. Il fallait être fait solide. Je te garantis qu'il n'y avait pas de gaspillage à faire, là. Non. Ben, on apporte ça à travers de ça.
Revenons à votre fameux magasin d'électronique qui a été bien connu, Radio Shack à Cap-aux-Meules en 1975. Vous avez fait le saut à Cap-aux-Meules. Puis il y a eu aussi une salle de billard que vous avez eue,
oui,
à Fatima.
Ben moi, quand il a acheté à Cap-aux-Meules, au départ, lui, ça n'était là, il y avait des employés. Puis moi, j'ai resté ici un bout. Puis après ça, il a décidé de faire une salle de billard. Puis il avait des machines quand tu joues, là. Là, il a ouvert ça ici. Ben, moi, j'ai décollé pour Cap-aux-Meules. Puis ça a bien marché, couple d'années. Mais à un moment donné, il faut que tu lâches aussi, là, parce que t'as trop d'ouvrage. Puis après ça, quand il a fermé ça, le corps a commencé ici aussi. Là. On a repris le bâtiment, on a vendu les appareils, on a repris le bâtiment pour partir le corps. Là. C'était pas gagné d'avance, mais...
On vous avait même déconseillé de démarrer ça, vu la distance,
ouais,
des maisons.
C'est ça, vu la distance des maisons. Un de nos grands amis qui a le câble à l'extérieur, tu vas te planter, regarde. Une pareille affaire de fil à balancer, tout ça va coûter. Puis c'est vrai que ça coûtait cher. Les poteaux de l'Hydro-Québec, ça s'était loué aux poteaux. Si on demandait un poteau de l'Hydro-Québec, parce qu'il manquait un poteau pour aller à une place, c'est nous qui le payions. Mais même si on le payait, je sais pas, 800 piastres, il faut leur payer une redevance à chaque année pour la location. Ça ne nous appartenait pas, quoi. Il y en a été étendu du corps et des amplificateurs. Là.
Dès le départ, vous avez connu un succès assez important.
Oui.
Les gens ont adhéré.
Ben, c'est sûr, c'est que quand tu dis que le camion partait d'ici, en face, il a commencé la construction en allant vers l'est. Là, le monde courait en arrière du camion. Tout le monde voulait le corps. Et on savait qu'on allait arriver. Là.
Quels sont, selon vous, les compétences que vous aviez qui vous a aussi le mieux servi comme femme au sein de l'entreprise?
Quand je m'embarquais dans quelque chose, c'était à 100%. J'étais vaillante. Le bureau était en face, mais la clé se mettait à la porte le matin. Ça s'ouvrait, puis il faut que tu sois ponctuel. Après ça, dans l'administration, c'est moi qui gérais tout. J'étais persévérante aussi. Je croyais à ce projet quand même. J'y croyais, j'avais des peurs, mais j'y croyais. Je rentrais au bureau, là, je te mens pas, puis le 6 heures arrivait le soir pour fermer, puis je me semblais que la journée avait passé, puis j'ai toujours aimé le monde. On était une grande famille. J'ai été élevée aussi avec les Bénards. Quand j'ai travaillé chez les Bénards, c'était les frères de maman. J'ai travaillé dans leur commerce, Bénard et frères, ici. J'ai toujours aimé ça. Quand t'aimes une affaire, le temps passe vite. Puis en plus, je m'occupais de la maison, puis je m'occupais de mes enfants. Même ma belle-mère était là. Puis les enfants l'aimaient tellement. Puis elle aimait mes enfants, fait qu'il n'y avait pas de problème là. Ça a aidé beaucoup. J'ai toujours aussi essayé d'apprendre, je pense, tout de suite à monsieur Fernandez, qui avait les assurances. Des fois, il venait au bureau, puis il passait dans mon bureau, puis il me donnait un conseil. C'est ça, de telle façon. Monsieur C avait une grande confiance en lui. Ça m'aidait, je prenais tout ça. Tout ce que quelqu'un me proposait, quand on a eu Internet, puis que je faisais toutes mes commandes. J'avais été coachée pour ça. Un engagement, c'est un engagement. Si j'avais trop de travail que j'avais pas pu résoudre dans la journée parce que répondre aux clients et tout ça, même si on avait des employés, des fois les clients veulent te parler à toi, à ce moment-là, j'allais travailler le soir. Je pouvais travailler jusqu'à minuit tout seul. Là. Je faisais beaucoup plus de travail, des fois. Je réfléchissais, j'analysais. Quand j'étais décidée, je vais de l'avant, je vais de l'avant.
Mais en affaires, malgré tous les calculs, malgré toute l'analyse, il y a toujours une part de risque.
Ben oui. Il faut que je le trouvais chanceux, parce que lui, il dormait bien, mais moi, je virais. Je calculais, même le soir couché. Là. Puis, moi, j'ai déjà signé mes payes pour déposer dans la compagnie. J'ai déjà fait ça. Il fallait que je trouve une solution. C'est sûr que ça virait. Lui, des fois, je le trouvais tellement chanceux de pouvoir dormir. Parce que j'avais une grosse responsabilité. Là. Tout aurait pu échouer. Là. Ça n'a pas été tout rose, mais finalement, au fil du temps, on a réussi. C'est sûr que la route est haut et bas, comme dans tous les commerces. Mais on a toujours eu une porte de sortie parce qu'on n'a jamais été refusé à nulle part. On a toujours eu un bon crédit, ça nous a aidé. Mais au gaspillage, à Paul. C'est des fois, c'est sûr que c'était pas tout le temps facile. Paul faisait de la musique à part de ça. Là. Ça payait à l'épicerie. Il fallait prendre les moyens. Ça nous a aidé à aller un petit peu plus loin.
Et dans ces moments difficiles-là que vous passiez, qu'est-ce qui vous permettait de rebondir ou de rester accroché au projet que vous aviez entamé?
La prière. La prière. Nous autres, on s'est jamais couché le soir sans faire notre prière ensemble. Remercier pour ce qu'on a eu dans la journée, puis demander une bonne nuit, puis commencer le lendemain.
C'est l'heure de la pause. Vous avez choisi un chanteur américain, auteur-compositeur de musique country, né en 1939 au Texas. Il a été intronisé récemment en 2010 au Country Music Hall of Fame. Voici Donna Ray Williams, dit Don Williams, avec son succès « I Believe in You ».
Stars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in I believe in mom and dad, and I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And
and I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe in you. I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true, I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be in working days and sleeping nights, that black is black and white is white, that Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood, that gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you.
On est de retour à la série Le Monde Change avec Zoé Monnier. On parle d'entrepreneuriat au féminin. Lorsque vous avez démarré vos diverses entreprises, est-ce que vous étiez du type décisionnel?
Plus d'accompagnement, puis je pourrais dire décisionnel aussi parce que il y a des fois que mes messages passaient. Je donnais mon point de vue. Puis après ça, ben, on mettait ça ensemble, puis on faisait chacun notre petit bout.
On parle beaucoup de conciliation travail-famille aujourd'hui. Ça prend quoi, selon vous, pour réussir dans l'entrepreneuriat et aussi notre famille, quand plusieurs membres de la famille aussi participent à l'entreprise?
C'est dans l'amour de tout ce que tu fais. Il aimait son aventure, puis moi, j'aimais le commerce, puis j'aimais le monde, puis... Quand on arrivait ici, le soir, au souper, nous autres, on a toujours mangé tard, même à l'heure actuelle. Au souper tard, on était autour de la famille, on discutait. Si les enfants avaient quelque chose à dire, ils disaient. Si on réglait ça autour de la table. Je pense pas que ça nous a amené des gros conflits. Puis j'aimais mes employés. Les employés, c'était des perles. On a un employé qui a toujours travaillé pour nous à la partie de la première journée du cadre, puis il est encore ici pour la nouvelle compagnie. Moi, je les recevais ici, là, à la maison, pour les parties de Noël. Il n'est pas question d'aller ailleurs. C'est moi qui préparais le repas. Ils étaient avec leurs conjoints, puis c'est de même ça se passait. On avait comme une autre famille. Les employés, ça faisait partie de nous autres. On n'a pas eu de grosses affaires à vivre là, qui nous ont vraiment dérangés là-dedans.
En entreprise, lorsqu'on a un commerce, il y a nécessairement parfois des clients qui requièrent une attention particulière ou ça se déroule un peu moins bien. Et dans une petite communauté comme la nôtre, c'est d'autant plus délicat.
J'aidais des personnes, des fois, tu sais, parce que moi, j'avais une tâche aussi ingrate parce que c'est moi qui faisais, quand il y avait des retards, qui faisais les appels bien souvent. Puis, fait que là, il y avait un employé qui avait été coupé le corps parce que ça n'avait pas de bon sens ce qui nous était dû. Puis la madame m'a appelé, c'était un vendredi soir. Elle vivait un problème énorme chez elle, puis elle était toute seule avec ses enfants. Puis c'était seul ça qu'ils avaient comme des ennuis, le corps. Mon employé est arrivé ici, puis j'ai dit, tu retournes là, puis tu vas placer le corps. Va le collecter, puis j'ai parlé à la madame, puis j'ai dit, quand même, tu pourrais juste me donner 5 piastres par mois, si tu peux, tu le feras, quand tu pourras. J'étais pas capable de faire ça à des enfants, puis elle a bien respecté sa parole. C'est, C'était un groupe pour moi parce que c'est moi qui passais pour la méchante, là.
Dans les petites communautés comme la nôtre, à titre d'entrepreneur, il peut être hasardeux de dévoiler nos états d'âme. Puis d'éprouver des difficultés publiquement, c'est pas avantageux pour n'importe quel commerce.
Cette période-là, on l'a vécue, comme tout le monde, je pense. C'est dur. Quand ça t'arrive, c'est dur. Mais après ça, tu réalises que nul ne se connaît mieux que soi-même. Il faut que tu continues de vivre avec le principe que tu as, d'être honnête, respectueuse, puis le reste, ça ne t'appartient pas. Si tu passes à autre chose, puis tu continues ta route avec la sincérité que tu as, ben, je pense que tout s'éteint au fil du temps. Puis aussi, on a été épaulés, on a été aidés incroyablement, parce qu'on s'est accrochés à la prière, on a été accompagnés avec des personnes compétentes. Puis le reste, ceux qui croiront ce qu'ils veulent, puis nous autres aussi, comment est-ce qu'on a agi, puis on sait comment est-ce que notre vie a été, puis on sait qu'on a été honnête, c'est tout. La paix. Moi, je suis une personne qui aime le monde, qui aime rire, qui aime s'amuser. Il faut faire la coop, une heure de plus partie, tout le monde me rencontre et me parle, et je prends le temps de parler. Quand on reste nous-mêmes, c'est sûr que les autres nous voyaient peut-être d'une façon différente, mais ça, ça me dérange pas, moi je suis comme je suis. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui m'ont dit « Oh mon Dieu, on n'aurait jamais cru que tu étais une mère. » Mais ça, ça ne m'appartient pas. C'est un jugement de l'autre.
Vous avez pris part, vous, personnellement aussi, dans diverses organisations aux îles.
J'ai été sur le CA de la Chambre de commerce plusieurs années. Après ça, j'ai fondé l'Éclaircie, le Centre communautaire d'Éclaircie pour la santé mentale, l'année que mon frère et Jean est décédé. C'était une cause qui me tenait à cœur. Et j'ai été présidente pendant 10 ans. Puis ça fait 30 ans cette année que la fondation est faite. Rachel Leblanc est encore là depuis 30 ans. Fait un travail formidable. Après ça, je me suis impliquée beaucoup à accueillir des personnes qui avaient des besoins. Même ici, dans ma maison, j'ai hébergé plusieurs personnes. J'ai accompagné beaucoup de personnes comme de la maladie. J'ai toujours eu le sentiment de redonner aussi. Il y a une année, il y avait Bernadette Benan qui travaillait pour nous. Puis elle a eu connaissance qu'il y avait une maman qui était monoparentale, qui avait 2 jeunes enfants aux études, puis que ça allait pas trop bien. Fait qu'elle est arrivée au bureau, elle nous a pas dit c'est qui. Elle nous a fait part qu'il y avait un besoin. Cette famille-là, puis c'était dans les semaines avant Noël. Elle a fait part de ça à nos employés. On avait 22 employés, nous autres. Et puis elle a fait le tour des maisons. Ça a été porté ça à la madame. Moi, je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Ça fait combien d'années? Fait que là, 2 ans, à peu près. J'arrive à la coop. Il y a une madame qui vient me trouver. J'ai quelque chose à te parler. J'ai dit, ouais, mais je la connais, mais pas plus que ça. Elle dit, je veux te dire que vous avez fait une différence dans ma vie. Elle dit, quand on entend des personnes, des fois, qui vous jugent, elle a dit, je leur dis, vous connaissez pas ces gens-là. Elle m'a dit, mon fils était à l'université. Mon oncle était aux îles. Puis j'étais tout seul. Elle a dit, vous m'avez aidé énormément. Elle a dit, je veux dire aujourd'hui que mes 2 enfants ont fini leur université, ils travaillent 2 belles jobs, puis moi, je suis heureux. Mais j'ai dit, mon Dieu, merci, mais j'ai dit, moi, j'étais pas au courant, c'était vous.
Il s'agit d'une anecdote touchante qui fait certainement partie de nombreuses autres que vous pourriez nous conter. On va faire une seconde pause, si vous le voulez, avec une chanteuse que vous avez choisie. Elle lancera d'ailleurs le 6 avril prochain un album qu'elle a intitulé « C'est tout moi », un 42e. Et aussi, du même souffle, elle lance une première autobiographie sous le titre « Ginette » pour ses 60 ans de carrière, c'est Ginette Renaud, avec la chanson que Charles Aznavour a écrite pour elle, « L'essentiel ».
L'essentiel, c'est d'être aimé, le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre, les fendre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours, mon.
Vous êtes à l'écoute de la série Le Monde change et nous accueillons Zoé Monnier. Quelles sont les valeurs qui vous ont soutenu pendant tout votre parcours? Vous dites ça, Michel, ça n'a jamais changé, ça a fait partie de ma carrière, de ma vie professionnelle.
Moi, j'ai été toujours très croyante. La religion a fait partie de ma vie. J'ai toujours cru, pour moi, c'est un Dieu. Il y a bien des choses qui nous rappellent qu'il y a plus grand que nous. C'est ma vie, c'est ancré en moi, ça. C'est ça. J'ai toujours fait confiance aussi. Si tu demandes quelque chose qui ne va pas blesser personne, que c'est quelque chose pour ton bien-être, que tu as des chances de l'obtenir. C'est une confiance, naturellement. Après ça, ce que c'est qui me tient, c'est ma famille. Ma famille, c'est extraordinaire. On est encore ensemble après 60 ans qu'on a eu deux merveilleux enfants. Et on a 5 petits-enfants, puis on a 4 arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que c'est qu'on peut demander de plus à la vie? Ça, il n'y a pas de prix pour ça. C'est une valeur qui est inestimable. C'est le plus beau. L'honnêteté, la franchise, moi, ça, pour moi, quand tu as ces deux qualités-là, tu peux aller loin. Moi, je ne suis pas capable de jouer le jeu. J'aime ou j'aime pas. Mais si j'aime pas, je dis que je fais pas de mal à l'autre. Je suis capable de me tasser.
L'une des choses dont vous êtes très heureuse, c'est d'avoir contribué à la fondation de l'organisme L'Éclaircie.
Avec tout ce que j'avais vécu avec mon frère, je sentais que les familles, on était comme abandonnés, nous autres, dans ça. On connaissait pas la maladie. On était ancrés là-dedans. Un médecin donnait des médicaments, il pouvait arriver de la visite chez vous, qui disait à ton frère, ben mon Dieu, prends pas ça. Si elle regardait, elle apprenait ça, puis elle arrêtait, puis elle va bien. Des commentaires comme ça, là, ça peut tuer. Alors, pour moi, c'est important que les familles aient une rencontre. Premièrement, pour familiariser ensemble, de parler de tes problèmes que tu vis avec une personne en santé mentale, puis de voir que tu n'es pas tout seul à vivre ça. Puis, de temps en temps, leur payer un dîner ou un souper au restaurant, entre eux autres, pour qu'ils aient une vie sociale aussi. C'était ça, le but de l'éclaircie. Puis, ça marche encore. Puis aujourd'hui, je regarde, c'est comment est-ce que le monde est plus épanoui, les mamans, quand des personnes comme ça, ou le père, ils peuvent chercher de l'aide. S'il y a une journée que ça va pas, ils peuvent partir, rencontrer une intervenante, aller éclaircir, parler. Parce que je veux dire, tu vis pas tout seul sur la terre, là. T'as du monde autour de toi, là, qui a des besoins. Ça serait-il juste, des fois, parler à une personne, puis ça va pas dans sa journée, puis elle te confie de quoi, puis tu parles avec elle. Et des fois, tout peut changer, hein. C'est important d'avoir le contact avec l'autre.
Zoé Monnier, merci d'avoir accepté l'invitation et je vous laisse le mot de la fin.
À moi, là, je vais dire de quoi à chaque fois que je vois, soit sur le journal ou que j'entends une nouvelle qu'il y a une femme qui s'est partie en affaires ou une jeune fille, je suis tellement contente là, pour elle. Je me dis, gars, c'est bon que les femmes prennent leur place aujourd'hui. Quand je vois une femme qui réalise un rêve qu'elle a, ben, je suis contente. Des fois, j'écoute la radio, là, puis j'entends, oh, une qui vient de se partir en affaires, l'autre est partie dans les photos, les ci, les ça. Je me dis, elle prend sa place. Si un couple éclate, ben, au moins, la femme, elle a quelque chose pour l'appuyer, elle a un travail, qu'elle peut vivre de son travail. L'indépendance, très important. C'est quand même que c'est pas marqué dans ton bureau que t'es ci, puis ça, là, ça, c'est pas grave. À la fin de la journée, si t'es fatiguée, là, tu sais ce que t'as fait. Tu sais ce que t'as accompli. Moi, je te remercie. Les personnes qui écoutent toutes tes émissions, là, ben, ça va leur donner le goût aussi. C'est qu'ils peuvent aller plus loin.
C'est là-dessus que prend fin cette édition de la série Le Monde Change. Ici Michel Landry qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.